Tiens, en roue libre, j'en peux plus. Elle va genouiller qu'elle m'a roulé dessus, là. Ah, je te jure. Hey, keeping up.
Hey, bienvenue dans Au cœur de la mode. Et on est au cœur de la mode. Pourquoi ? Parce que nous sommes au cœur de la mode. C'est le jour 10 000 des défilés. Bonjour Julien Dacosta.
Bonjour Loïc Prigent.
Et nous sommes de la DS pour débriefer les défilés. Voilà, on file dans Paris et avec ce toit qui est complètement en verre, on a l'impression d'être dans un aquarium vu qu'il pleut beaucoup, c'est hyper agréable. Entre ces défilés de cohue, nous sortons de chez Hermès et nous allons à deux pas, d'ailleurs nous allons faire un tout petit saut de puce puisque nous allons à des essayages chez Copernic qui est installé vers Bastille. Alors, comment était l'ambiance en coulisses chez Hermès ? Parce que tu étais en coulisses, enfin j'étais en coulisses un peu avec toi à un moment donné. Oh ! On doit dire aux gens, nous confirmons l'étoile Michelin du catering Hermès.
Ah, je te l'avais pas dit ?
Oh, tu me l'avais dit et je confirme. Alors Clément, comment était le catering ?
Très bon.
Qu'est-ce que tu as mangé Clément ?
J'ai mangé quoi ? Une petite salade un peu asiatique et un cookie, très bon cookie.
Un cookie Hermès quoi ?
Cookie Hermès.
J'ai pris le banana bread Hermès, qui était très très bon. Une salade Hermès, et je crois que j'ai eu du blé Hermès, un petit peu. Et j'ai bu...
Très bon ça.
Ouais, très bon. Et j'ai bu une boisson un peu chaude au clou de girofle, de Hermès, qui était très très bonne aussi. Il y avait des scones avec une motte de beurre que tu sentais qu'elle avait été faite à la main.
Bah, c'est ça les défilés Hermès, c'est que tout est au standard de Hermès.
C'est fou.
L'accueil est Hermès, le catering est Hermès, la sécurité est Hermès. Hein. Tout est au standard de Hermès, le catering, l'accueil, le line-up, le backstage est hyper serein, hyper bien organisé, il n'y a pas de panique. La panique, c'est pas Hermès.
Non.
Tout est maîtrisé, tout est calibré, il n'y a pas du tout de chaos, de fashion chaos comme on peut aimer chez d'autres maisons. Là, chez Hermès, non, on aime aussi ça, on aime ce côté hyper organisé, hyper très calme, c'est un bon défilé du matin à faire.
Il y a une cabine pour le maquillage,
pas le matin, là.
Il y a une cabine pour l'habillage, mais on ne sait plus quelle heure il est. Il y a une cabine pour le maquillage, une cabine pour l'habillage et une cabine pour les sacs. Ça, c'était fou. J'avais jamais vu ça.
On est rentré dans une pièce où tous les sacs étaient disposés sur les tables. Et je crois que, franchement, c'est le rêve de tous les fans de Hermès, quoi,
ouais.
Cette pièce.
C'était dingue. Je pensais à tous ces gens qui auraient voulu être à notre place.
Ah ouais. On voyait tous ces petits birkins qui dormaient comme ça, paisiblement.
Ouais. Qui n'étaient pas encore nés. Qui allaient naître sur le podium quelques
Personne
secondes plus tard.
Personne ne les
avait
vus encore, ouais.
On a vu les nouveaux sacs, les futurs sacs. Il y avait un sac avec une anse en forme d'étrier qui était hyper mignon. Nadège Vanessibulski qui a vraiment pris le temps de tout nous expliquer, les couleurs, les matériaux et tout ça. Il y a un jaune blé assez magnifique, qui a vraiment une teinte de jaune. Pas du tout éteint, mais très, très doux. Des rouges, des bruns, les couleurs sont totales, au sens aussi où elles les appliquent sur toute la silhouette. La bague, elle est du même rouge que le manteau, que tout ce qui est en dessous. Alors, détail fashion, la botte est ouverte. La botte Hermès, cette saison, se porte ouverte.
Une botte de motarde Hermès.
Oui, parce que c'était mi-équestre, mi-motarde. Un vent de liberté, un vent de... J'appelle ça les Hermès Angels. Je suis désolé. Il y avait Lisa Rinna, la mère de la mannequin Amélia Gray, la star de la télé-réalité, qui est aussi actrice, qui était là. Et c'était son premier Hermès.
Tellement génial de la trouver ici.
Mais oui, et alors elle avait une silhouette vintage Hermès des années 80 que je soupçonne d'avoir été dessinée par Eric Bergère. Et elle était hyper belle, un peu équestre aussi, comme ça, un peu dominatrix, bourgeoise.
Mais c'est aussi ça Hermès, hein. C'est aussi la grande aristocratie de Los Angeles.
Mais oui.
C'est aussi ces femmes-là qui font vivre ces sacs partout dans le monde entier et que tout le monde envie. C'est logique de la trouver au premier rang de chez Hermès. Je trouve ça très très cool de la trouver. Et en plus, surtout, elle est un peu démente.
Elle pétille.
Voilà, exactement, elle pétille, c'est le bon mot.
Et il y avait d'autres femmes qui pétillaient, puisqu'il y avait Jeanne Balibar, il y avait Amira Kassar, qui avait un espèce de perfecto où tu peux enlever le haut, tellement c'était genre nickelissime, et qui parlait très bien de la baraque. Le type à côté de moi, pendant le défilé Hermès, regardait la bourse. Et Caroline Zerf disait, mais qu'est-ce qu'il fout celui-là?
Ouais.
Le mec regardait le cours de la bourse.
Chez Hermès.
Chez Hermès.
Ça veut tout dire.
Et j'étais là, mais vous avez pris des actions dans le truc et tout.
Qu'est-ce que ça fait de regarder un défilé à côté de Karl Linsner?
Ben, tu sens que tu es près de... de l'origine du chic. C'est ça qui est assez fou. Il y a des gens à côté de qui tu es et tu sais qu'elle comprend mieux le tomber, le porter que toi. Elle sait ce qui fera chic, elle sait ce qui fera une bonne photo, elle sait ce qui fera une campagne, elle sait ce qui se vendra aussi, elle sait ce qu'elle veut collectionner parce qu'elle a une énorme collection de mode. Et tu as ça à côté de toi. Tu as quelqu'un qui a fait des séries de mode avec Irving Penn pour le Vogue, qui avait le digicode de Richard Avedon, qui a travaillé avec Linda Evangelista, qui sait comment twister un vêtement, une collection, pour la rendre encore mieux, encore plus désirable et tout ça. Et donc tu profites, enfin moi c'est ce que j'essaie de faire, c'est de profiter de son savoir et je lui demande vraiment ce qu'elle pense et tout ça. Donc je la faisais réagir sur les mannequins, sur les sacs, sur les cuirs, sur tout, pour essayer de choper ce qu'elle pensait. Et invité surprise, Daniel Roseberry de Schiaparelli, qui était là au premier rang et qui dit, j'ai rencontré il n'y a pas très longtemps Nadège Vianney-Sibulski et il dit qu'il est assez épaté de la simplicité de cette créatrice et de comment elle arrive à naviguer dans cette maison avec, pas une nonchalance, mais une simplicité, elle a du chien, quoi. En même temps, tu sens que les choses peuvent se passer de façon simple avec elle. Et il appréciait ça. Mise en scène, c'était de la pluie, ce qui était vraiment ironique, parce que c'était une pluie Hermès, alors que dehors, il y avait la pluie de tous les jours. C'était assez drôle. Quand il s'est mis à pleuvoir, on était dans le noir. Une sensation très étrange où tu sens qu'il pleut, parce que tu sens cette fraîcheur bizarre, et tu entends, et tu sais pas si c'est un effet spécial, mais non, c'est la pluie toute bête.
Moi, j'aimais beaucoup le Birkin Shoulder.
C'est-à-dire
C'est le Birkin, mais en un peu plus petit, en plus format baguette, on va dire. C'est une idée en fait qui vient de Jean-Paul Gaultier, de l'époque Jean-Paul Gaultier chez Hermès.
Ah ouais.
Ils ont ressorti là pour le défilé.
Avec la hanse qui est plus longue, c'est ça,
ça exactement.
Pour avoir le porté sous le
bras, ouais, sous l'épaule.
Ah là là. Et alors, elle disait qu'elle voulait que les sacs soient portés comme des livres, donc au creux du coude un peu.
Oui, même le porté est intéressant chez Hermès. On porte pas son sac.
Non. Ah bah non. Non, mais la botte pas fermée.
C'est une cérémonie.
Cette saison, on porte la botte ouverte. Moi, je trouve ça génial. Comment les stylistes trouvent des idées pareilles, quoi. On laisse la botte ouverte, trop marrant. Ce matin, on a bien commencé la journée puisqu'on a commencé avec les essayages Lacoste où on a été rencontrer leur nouvelle styliste, leur nouvelle directrice artistique qui s'appelle Pelagia Kolotouros, qui est gréco-américaine. Et l'avantage des créatrices américaines, c'est que...
Elles parlent bien.
Elles sont hyper articulées, elles parlent bien. Bon, je crois qu'apparemment, elle n'avait pas fait 200 000 interviews télé avant, mais tu sens une aisance à bien expliquer tous ses concepts et tout ça, sans qu'elle connaît l'ADN de la maison par cœur, mais elle est arrivée il y a de nombreux mois. C'est vrai qu'on a vu cette saison, par exemple, chez Moschino, où le créateur est arrivé le 10 janvier pour sortir un défilé le 20 février, un truc comme ça. Donc, ils ont peu de temps pour se mettre à cheval, alors que Pelagia Kolotouros, elle a eu quand même plus d'une année ou une année pour se faire à l'ADN de la maison.
Oui, on sentait qu'elle connaissait la bio de René Lacoste par cœur.
Mais par cœur. Genre René Lacoste. C'est vrai que nous, on dit René Lacoste, mais...
Parce qu'on est tous un peu intimes avec cette marque en France. C'est vraiment une institution, Lacoste.
Bah, c'est ça. Quand on te donne tes papiers, on te donne Apollo Lacoste dans ce pays un peu, non ? Évidemment, on ne vous raconte pas la collection, mais je pense que c'est un truc que ça vaut le coup que vous regardiez mardi dans l'après-midi. Entre Miu Miu et Louis Vuitton, il y a Lacoste. Et là, on file chez Coperni pour faire des fittings. Ça va, Julien? Tu tiens le choc?
Oui. Une petite hésitation.
Ouais, c'est ça. Hein. Combien de Red Bull aujourd'hui?
Là, un, et même comme ça, faut pas que je regarde dans le vide, parce que dès que je me mets à regarder dans le vide, je m'endors en fait. Donc,
Ah ouais, c'est ça. Bah, je fais pas le hey parce que je suis un peu ému là. Je suis un peu ému.
Ouais.
Ah ouais. Ah ouais, franchement, je suis un peu. En fait, je sais pas si je suis à fleur de peau, mais. On est fatigué et tout. Et là, c'était un peu intense. On sort de. On sort de Jacquemus. Toi, tu n'étais pas là. Tu étais encore en train de filmer chez Coperni pendant les essayages, parce que nous filmons beaucoup de Coperni pour un documentaire. Et là, on se retrouve dans la DS, on fonce vers le défilé McQueen. Et j'ai une montée de chiale.
Oui, je t'ai rejoint dans le 8e. Et c'est quoi cette adresse? C'est une nouvelle adresse pour Jacquemus?
Oui, Jacquemus a des nouveaux locaux assez impériaux. C'est étonnant. Alors, je pense que la grosse... Alors, il y a de l'architecture. Tu rentres dans... Tu as l'impression d'entrer dans le palais bulle de Pierre Cardin sur les hauteurs de Cannes. C'est-à-dire que c'est des formes galets, des formes rondes, enveloppantes. On a l'impression d'entrer dans le ventre de quelque chose, mais tout doux et tout couleur blé et tout ça. Et tu passes dans un tube et au fond du tube, il y a une sculpture de Jacques Mayol d'une femme nue qui tient des pommes dans les mains. Et au-dessus d'elle, il y a une hauteur sur plafond d'une dizaine de mètres, je pense. Alors, je n'ai pas visité tous les bureaux. C'est les nouveaux bureaux qui, je crois, prennent 3 immeubles maintenant. C'est plus la succursale Jacquemus. C'est la supernationale Jacquemus. Et donc, on était tous réunis pour la remise de médaille de chevalier des arts et des lettres de Simon par Jacquemus. Forcément, ces cérémonies sont toujours relativement émouvantes.
Mais alors, c'est quoi les critères pour recevoir alors, cette distinction
chevalier arts et lettres. Donc, ça veut dire que j'imagine, selon moi, c'est que tu participes au rayonnement culturel et artistique de la France. Rayonnement artistique à l'intérieur de la France ou à l'extérieur de la France.
Amplement mérité pour Simon Porte-Jacquemus.
Je pense que si quelqu'un porte haut les couleurs de la France aujourd'hui, Simon Porte-Jacquemus est dans un peloton de tête, ça c'est clair.
Et alors, qui était là ?
Qui n'était pas là ? Écoute, il y avait, ce qui était très mignon, il y avait les équipes Jacquemus, il y avait toutes les muses Jacquemus, il y avait la famille Jacquemus forcément, il y avait ses deux grands-mères, son père, ses belles-mères, son mari Marco. Il y avait aussi la presse, pas mal de gens de la presse qui l'ont soutenu depuis longtemps. Il y avait Amanda Lear.
Amanda Lear.
Mais ouais.
Elle est partout.
Qui à un moment donné était grimpée sur un truc et s'est accrochée à mon épaule pour en redescendre. Et je lui ai dit, je sers enfin à quelque chose. Elle était morte de rire. Il y avait Laetitia Casta. Il y avait aussi Delphine Arnault qui était là, ainsi que Sophie Fontanelle, qui a fait un discours. Et surtout, la surprise, l'honneur extraordinaire, habillée en custom Jacquemus, dans une robe sinueuse, dans une soie assez signature pour elle. C'est vraiment le look qu'elle a d'habitude. Mais là, c'était custom Jacquemus fait pour elle, sur mesure, Anna Wintour. Oh,
dingue, elle était sapée en Jacquemus.
Ouais, couture, puisque custom veut dire couture, tu vois.
Elle était sapée en Jacquemus.
Ouais, littéralement, en Jacquemus, couture, pièce unique, j'avais jamais vu cet imprimé. Vraiment, la classe, Anna Wintour, son bob, ses lunettes de soleil, sa bonne humeur, parce qu'elle est de très bonne humeur cette saison, et surtout, qui monte sur l'estrade. Alors, il y avait un petit pupitre avec marqué Jacquemus, exactement comme les prises de parole présidentielles, tu vois. Il manquait que le drapeau bleu, blanc, rouge. Et elle monte sur scène, et franchement, je trouve ça remarquable qu'Anna Wintour fasse ça, un long discours sur la carrière de Simon Porte-Jacquemus. Elle nous a révélé pourquoi le Chiquito avait été si petit dès le début. Elle le savait, et tu sais pourquoi ?
Ben pourquoi ?
Pour mettre sa médaille.
Oh, c'est trop mignon.
La gounette comme ça qu'elle nous a fait.
Elle est mignonne, elle peut être mignonne.
Mais oui, franchement. Et elle avait écumé tout Paris toute la semaine en demandant des bonnes anecdotes sur Simon à peu près tout le monde, tous les gens qui le connaissent un peu, pour avoir un discours vraiment sur mesure, un discours aux petits oignons, quoi, avec des petites anecdotes mignonnes et tout ça. Et donc, Dame Anna Wintour, parce que je crois qu'il faut avoir une médaille assez particulière. Et j'imagine qu'elle a une médaille, elle a peut-être une Légion d'honneur où elle est elle-même chevalier. Parce qu'il faut être au moins un Légion d'honneur ou chevalier des arts et des lettres pour pouvoir décerner une de ses médailles. Et donc, c'est elle qui l'a épinglée sur la poitrine de Simon Porte-Jacquemus. Je me suis permis. Je suis allé lui dire, franchement, trop bien que vous fassiez ça. Je vais te lui donner mon petit bon point.
Qu'est-ce qu'elle a dit ? Elle a dit...
je sais pas, elle a hoché de la tête.
That wasn't a question.
Oui. That wasn't requested. Elle n'avait pas besoin de mon bon point. Mais écoute, je suis allé lui dire. Franchement, quand quelqu'un fait quelque chose de bien...
Moi, je suis totalement pour.
Après, Sophie Fontanelle a fait un long discours, hyper émouvant. Elle a fait pleurer la pauvre Liline. Elle était Liline, qui est la grand-mère de Jacquemus. C'était très, très émouvant pour elle, je crois, et pour toute la famille. Elle lui a dit des trucs que je ne pourrais pas vous répéter parce que vous n'avez pas envie que j'ai lâché le micro. Et après, Simon a fait un discours, pareil, hyper émouvant, quoi, où il a cité nommément Adrien Joff de chez Comme des Garçons, qui, je pense, a été instrumental pour qu'il ne tombe pas au sol quand il arrive à Paris, que sa mère décède, qu'il arrête l'école, l'école de mode. Je pense que c'est Adrien Joff de Comme des Garçons qui a été la bouée de sauvetage quand il lui a donné ce job à la boutique Comme des Garçons, où en plus, je pense que c'est là où il a appris son sens incroyable du maire, son sens des collections, son sens du à la fois de l'expérimentation et du commerce qui est aujourd'hui son arme secrète, quoi. Et voilà, il a fait un long discours, il a parlé de sa mère assez longuement, c'était hyper émouvant. Il a parlé à la presse, il a dit merci de m'avoir soutenu et continuez de le faire, allez voir les jeunes, allez à leur défilé, donnez-leur le temps, c'est pas facile, donnez-leur le temps. Et il a répété ça, et c'était un ad-lib ça, c'est un truc qu'il a improvisé, qui n'était pas écrit dans son discours. Et il a remercié toutes ses équipes passées, présentes, enfin, il était vraiment, il a remercié sa famille, enfin, tout le monde était en lambeaux à la fin. Il lisait son discours sur un iPad, c'est mignon. Anna Wintour lisait son discours sur des fiches hyper bien tapées, et alors que Sophie Fontanelle, la France, c'était des choses griffonnées sur du papier à lettres en tête Charlotte Chenet. Tous les détails. Ah si, très drôle. Sophie Fontanelle dit « J'ai deux pièces de Jacquemus dans ma garde-robe. Un manteau qui ressemble à une nappe que je n'ai jamais mis. » Il a interrompu en disant « Non, c'est pas une nappe, c'est un torchon. » Et ce top, et donc elle avait un top, et elle disait que ce top était comme, un peu comme lui, c'est-à-dire qu'il était têtu, il se remettait tout le temps dans la forme qu'il voulait, qu'il dépassait un peu et que Simon dépassait. Et elle a dit qu'il était un casse-couille, mais tendre.
Ah, c'est mignon.
C'est pas mal de dire ouais, ça, un discours un peu officiel comme ça, que tu es casse-couille mais tendre. Hein, voilà.
L'esprit français jusqu'au bout.
Ah ouais. Mais ça, c'était drôle pour le coup.
Quelle était la réaction du papa?
Bah, il était rouge tomate. Il était rouge tomate, il m'a dit j'ai la fièvre. Je sais que j'ai l'impression d'avoir la fièvre. Il était dans une. Je pense que ces médailles-là, ça fait vraiment quelque chose au papa, en général.
Oui, c'est normal.
C'est... Parce que c'est la République qui dit, qui dit au père voilà, on reconnaît votre fils et tout ça. En plus, c'est un fils qui a décroché de l'école, qui n'a pas eu de diplôme, bah voilà, c'est, voilà, le voilà le diplôme. Quoi,
une fierté pense. Intense.
Ouais. Et républicaine, quoi. C'est la France. La France qui dit, voilà, on vous reconnaît. Donc, on vous voit. Voilà. Donc, c'était hyper classe. Le papa ému. Moi j'adore les papas émus. En tout cas, Julien...
Toi, tu demanderais à qui... Non, tu l'as déjà, c'est vrai.
Oui, peut-être que
vous ne savez pas ça, chers auditeurs. Loïc est chevalier des arts et des lettres, et c'est bien de le rappeler ici.
Ben, écoute. Fierté
de fou,
française.
Bien sûr.
Ben, oui.
Qui te l'a donné, toi, la médaille?
Ben, personne. Je n'ai pas fait de cérémonie.
T'as pas fait de cérémonie?
Non,
tellement
non.
Chic.
Ouais. Ah bon, c'est chic?
Bah non, moi j'aurais adoré que t'aies fait une cérémonie.
On fonce dans notre déesse sublime qui est, t'as vu cet habillage cuir qu'on a
ah,
là?
Ah, sublime, oh. Mais quelle voiture! Tout, les gens nous regardent, c'est fou!
Ouais, c'est vrai.
Non, mais vraiment, je l'ai dit la saison passée.
Mais les
et
gens
là,
matent,
c'est,
ouais.
C'est fou, les gens ouais. Nous matent au feu rouge et tout. Ouais. C'est un peu dément comme voiture.
J'ai l'impression d'être Alicia Silverstone dans une robe à l'Aya un peu moulante.
Ouais, on a une chance.
Dans cette voiture.
On a une chance un peu folle, c'est vraiment.
On nous dévisage. On a un privilège dingue, exactement. Et on va chez Alexander McQueen, qui est l'autre événement de la saison, puisqu'il y a un nouveau créateur.
C'est un autre défilé très, très attendu cette semaine.
Et toute la fashion y va, hyper attentive, en mode pouce vers le haut ou pouce vers le bas.
Ah là, ouais, là, ça pardonne pas. On est samedi soir en plus, ouf. Alors faut vraiment envoyer du lourd.
Merci de nous écouter. Si vous êtes arrivé à ce point-là du podcast, c'est que...
Vous êtes vraiment des hardcore et on vous adore.
Au cœur de la mode, on débriefe les défilés dans la DS avec Julien Dacosta, Clément Duché à la prise de son et Najim Moubarek au montage.